Bah oui, j'espère.
C'est bon ? Super.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre avec Clara Lodwik, l'autrice de Merelle, publiée aux éditions Dupuis. Bonjour Clara.
Bonjour.
Merci d'être, d'être avec nous. Merelle, c'est votre toute première bande dessinée publiée dans une toute nouvelle collection, Les Ondes Marcinelles, des éditions Dupuis. L'histoire de Merelle, une femme d'une quarantaine d'années contre laquelle les gens d'un village dans lequel, du village dans lequel elle habite voient un jour sans raison objective, on va y revenir, se retourner avant d'évoquer plus dans le détail cette histoire. J'aimerais que l'on revienne un instant sur ce qui vous a mené à cet album et avant lui à la bande dessinée. Votre père est auteur de bande dessinée. Est-ce que devenir vous-même autrice de bande dessinée a été une évidence ou est-ce qu'il vous a fallu du temps pour vous dire que vous aussi, vous aviez envie de raconter des histoires en dessin ?
Bah, pour moi, c'était évident que je voulais raconter l'histoire depuis toujours. Après, bah, c'est pas évident de publier un premier album, voilà. Mais pour moi, ça a toujours été très clair. Alors quand j'étais plus jeune, j'ai commencé plus par le dessin, je pense comme tout le monde, parce que spontanément, on dessine. Mais la narration est arrivée assez rapidement. Il y a même eu toute une période où je pensais que je dessinerais pas et que je ferais que du scénario. Donc voilà. Mais oui, en fait, depuis que j'étais petite, je fantasmais complètement sur l'idée de faire des BD, quoi. Ça a été toujours clair.
Et est-ce que vous avez des souvenirs de lecture qui, dans l'enfance ou à l'adolescence, ont été particulièrement marquantes ?
Oui, je pense que j'ai vraiment dû apprendre à lire avec les Philémon. Je ne sais pas si vous connaissez les Philémon, notamment parce que voilà, il y a des îles qui ont des formes de lettres, le A par exemple. Donc j'ai appris, je pense, à lire avec Philémon. C'était mes parents, c'était mon père du coup qui me faisait la lecture quand j'étais toute petite. Puis il y avait Lily au Royaume des Nuages aussi, mais c'est un truc d'illustration de Kitty Crowther. Et après, bah, c'était les Bob et Bobette. En Belgique, on est très fan. Et en plus, comme je suis néerlandophone aussi, Bob et Bobette, c'est la base. Quoi. Après, j'avais accès à beaucoup de BD chez moi. Donc, voilà.
Et je crois qu'il y a un auteur qui est très important pour vous. C'est Bruno Waits.
Oui. Oui. En fait, j'ai découvert ces BD... quand j'étais déjà à Saint-Luc, en fait, ça n'a l'air de rien, Bruno Waits, il a fait toute une série de bandes dessinées comme ça, qui sont assez discrètes quelque part, c'est dans la collection, je ne sais plus quoi, en tout cas
c'est chez Gallimard,
mais je ne sais plus quelle collection, comment ça s'appelle, mais donc ce sont des petits livrets, vraiment tout discrets, et Bruno Waits a fait une série qui s'appelle Un privé à la Cambrousse, et donc c'est un détective privé, en fait, c'est même pas un privé, il n'a pas de formation, rien du tout. Et c'est un gars qui vit dans un petit village et qui fait des enquêtes sur des histoires d'adultère, d'empoisonnement, des trucs super simples. Et le dessin est à première vue très naïf ou simple, mais c'est vraiment faussement simple. C'est super beau et très élégant et ça raconte super bien, surtout.
Je confirme. Oui. Vous évoquiez Saint-Luc. C'est quelque part là-bas qu'est née cette bande dessinée Merelle, ou en tout cas une première idée, un premier élément qui allait constituer ce qu'allait être Merelle, puisqu'un jour, on vous a fait travailler sur les faits divers,
ouais.
C'est ça. Et c'est là qu'une première graine, en tout cas, de ce qu'allait être Merelle est arrivée.
Oui. Alors, je trouve qu'en plus, les faits divers, c'est un bon truc, en fait, parce qu'on part de quelque chose qui est a priori plutôt simple, mais un petit peu exceptionnel quand même dans le quotidien, parce que c'est un fait divers, mais ça reste quelque chose de simple, avec des personnes simples. Enfin, c'est pas un truc extraordinaire non plus. Et donc, on a un petit événement, mais on peut surtout se concentrer sur les personnages et l'univers qui va autour du fait divers. Et donc, en effet, on avait comme exercice, dans la deuxième année, de choisir un fait divers et de développer notre projet de fin d'année là-dessus. J'avais hésité entre deux sujets, et un des deux sujets était assez proche d'une sorte de canard. Enfin, de poule, pour le coup, c'était des poules. Mais je n'ai pas choisi ce sujet-là. Mais il m'est resté en tête.
C'est resté quelque part, et j'ai lu qu'ensuite, vous aviez rencontré des femmes qui vous ont inspiré Merelle, et que c'était comme si, finalement, c'était un puzzle dont les pièces se seraient progressivement assemblées. Alors, plusieurs questions derrière ça. Est-ce que ces pièces de puzzle, vous en teniez registre ? Est-ce que quand il y avait des éléments comme ce fait divers que vous n'avez pas exploré dans le cadre de vos études, comme ces femmes que vous avez rencontrées, est-ce que c'est des choses que vous notez et qui un jour finalement s'assemblent ? Et deuxième question, à quel moment est-ce qu'on sait et ce qu'on sent qu'on a justement toutes les pièces, ou en tout cas quasiment toutes les pièces, pour commencer à se lancer dans l'assemblage.
Donc, est-ce que je tenais des... peut-être pas consciemment. J'ai quand même des carnets où je note, hein, évidemment, enfin, je pense comme la plupart des gens qui font de la BD, surtout des conversations, des dialogues que je peux entendre. Enfin, tout ça, je note. Le fait divers, alors oui, je note quelques idées de base dans mes carnets, mais ça, c'était surtout dans ma tête. Je pense que c'est pas une bonne technique. Il faudrait que je note plus souvent, parce qu'après, ça tourne en rond et ça fait du bazar. Et donc, à quel moment est-ce que... ouais, c'était comme si, en rencontrant ces femmes-là, que elle me donne envie de les raconter, elle. Ça devenait justement, d'un coup, l'autre histoire, le fait divers, faisait sens, mais avec elle, quoi. Sans elle, j'avais pas tellement envie de raconter cette histoire, c'est pour ça que je l'avais pas racontée. À l'époque, j'ai raconté une autre histoire d'une autre femme, d'ailleurs. Et là, Merle était le bon personnage, je trouvais, pour raconter ça. Et elle m'apportait une dimension plus intéressante que ce que j'avais vu dans le fait divers jusqu'à là, quoi. Et comment est-ce qu'on le sait ? Je sais pas. Je sais pas. Je crois que l'éditeur aussi est là pour accompagner.
On va parler justement de la relation avec l'éditeur et la façon dont, notamment sur un premier album, son rôle compte. Merel, je le disais, c'est donc l'histoire de cette femme, quarantenaire, qui élève des canards et qui traîne souvent dans le club de foot du coin pour y trouver de la matière pour ses articles, pour le journal local. Elle s'entend a priori bien avec tout le monde, ou en tout cas, tout se passe relativement sereinement quand le récit débute. Et puis, suite à une blague pas terrible, mais pas dramatique non plus, à propos des nouvelles douches du club de foot, l'ambiance va se dégrader et des rumeurs vont commencer à courir à son sujet. Et je le disais au tout début de la rencontre, petit à petit, le village va se liguer contre elle. Sa blague, c'est un déclic. Mais finalement, c'est pas sa blague elle-même qui est en cause, c'est vraiment un élément déclencheur. Comment est-ce que cet élément déclencheur est arrivé dans votre récit ? Qu'est-ce que vous aviez envie de mettre en place justement à partir de ces éléments dont vous nous parliez, à savoir le fait divers autour des canards ? Je crois que c'était un fait divers où on retrouvait des canards morts, si je ne me trompe pas, une histoire de vengeance, l'histoire de cette femme. Qu'est-ce que vous vouliez raconter finalement à travers finalement ces quiproquos, ces malentendus? Ça parle aussi beaucoup de souffrance inutile, votre bande dessinée, parce qu'il y a beaucoup de souffrance et on se dit à quoi ça tient finalement.
C'est un peu difficile de répondre. Par où commencer? Donc, comment choisir ce.
Peut-être on peut reprendre le fil justement, ouais. Si vous voulez, de la façon dont vous avez créé cette histoire, c'est-à-dire qu'on a eu les différents éléments, il fallait ensuite créer l'intrigue. Est-ce que vous saviez que vous aviez envie de parler justement de ce que je disais, de ces histoires de malentendus, de la façon dont d'un seul coup quelqu'un peut être mis à part? Là on est dans un village, mais ça pourrait être dans une cour d'école, ça pourrait être ailleurs. Qu'est-ce qui était au cœur de vos préoccupations quand vous avez commencé à vraiment écrire le récit?
Oui, donc le point de départ, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le village d'un côté, avec les commérages et tout ça, parce que c'était quelque chose que j'avais pu observer et que j'avais vraiment envie de raconter, et ça m'intéressait. Et de l'autre côté, il y avait Merle, ce personnage, j'avais envie de le raconter aussi. Mais pas un portrait vraiment intimiste de femme chez elle. J'avais envie de quelqu'un qui soit en mouvement, qui aille d'une porte à l'autre, qui aille voir les gens, qu'on la connaisse à travers ses interactions avec les autres. Finalement, Merle, on la voit assez peu dans son intériorité, tout seul chez elle. Voilà. Ensuite, comment faire pour que... quelle serait la bonne excuse pour qu'un village se ligue contre une femme qui est seule? En réalité, ce qui est un peu triste, c'est qu'on met les femmes souvent en compétition pour plein de choses, et notamment sur le plan de leur physique et donc sexuel aussi dans leur couple, etc. C'était très facile de déclencher une colère intense d'une femme envers une autre si elle a une insécurité. Et pour moi, c'est extrêmement triste parce que normalement, ces deux femmes sont censées pouvoir s'entraider, mais elles ont été elles-mêmes victimes du système dans lequel elles sont. Et donc, qu'est-ce qui peut finalement, puisque une des premières choses qu'on dit aux femmes, c'est d'être cette femme qui va juste être super bonne au lit avant même quoi que ce soit, bah, du coup, si tu l'attaques sur ce domaine-là, si Suzy pense que Meryl couche avec son mari, bah, c'est fini. En fait, elle a tout perdu dans sa vie. Elle a tout, tout est cassé, quoi. Et donc, Meryl devient une super menace pour elle. C'est horrible parce que on devrait se dire que Suzy a d'autres capacités, d'autres compétences, et que Meryl devrait peut-être plutôt la mettre en danger sur d'autres choses. Mais non, c'est la seule chose qui l'intéresse, c'est cette histoire de séduction, d'être la plus séduisante et de voilà. Mais c'est pas sa faute à Suzy. En fait.
Et ce qui est intéressant, ce que je disais, c'est que effectivement, ça parle de sa condition de femme, du rapport des femmes entre elles, mais c'est quelque chose aussi de beaucoup plus universel que ça, parce que les raisons d'être mis à l'écart, ça peut arriver de plein de façons différentes, dans plein de situations différentes.
Oui, après, le côté vraiment bouc émissaire sociologique, voilà, comme tu dis, Sonia, c'est qu'il y a un élément déclencheur, mais voilà, on attend que, on sent quand même que normalement, il suffit de se... d'un tout petit truc pour que tout le monde puisse enfin éclater. C'est comme si on perçait un ballon et qu'enfin toute la haine pouvait se déverser. Et c'est ce qui arrive à Meryl. Meryl avait sans doute déjà dû accumuler des frustrations chez... Enfin, les autres avaient déjà dû accumuler des frustrations par rapport à elle. Et peut-être même pas, en fait. Peut-être que le village avait d'autres problèmes de base et que Meryl est juste arrivée au moment où, voilà, Suzy avait besoin de se défouler. Mais en tout cas, voilà, le village doit se défouler. Il y a sans doute des problèmes entre les gens. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas vu les gens avant, mais il y a sans doute des tensions qui n'arrivent pas à être résolues. Et donc, quoi de plus efficace pour retrouver une unité ? C'est se liguer contre une personne ou un groupe de personnes. Voilà.
Et au milieu de tout ça, il y a des enfants. Des enfants qui cherchent à comprendre, qui entendent des bribes, des éléments, des Meryl et méchantes, et qui ont envie de comprendre et qui se retrouvent finalement, malgré eux, dans des histoires d'adultes.
Oui, pour moi, ce qui est important, c'est que les enfants sont victimes à leur tour de tout ça, parce qu'ils subissent une sorte de double violence. Ils subissent la violence de voir ce monde d'adultes complètement fou, où les gens s'en prennent d'un coup à quelqu'un sans aucune raison valable. Et en plus, ils vont reproduire la violence eux-mêmes. Donc, si un jour ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, ils vont culpabiliser, ils vont devoir aller voir des psys, ils vont devoir se dire, bon, il y a un truc qui ne va pas, voilà, même si ce n'est pas leur faute. Et les enfants, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ne sont pas en capacité de comprendre ce qui se passe, justement. Ils n'ont pas tous les éléments, ils n'ont pas les clés. Ils ne savent pas ce que les parents ont vécu avec Meryl avant, tout leur passé, parce que ça fait 50 ans, plus ou moins, qu'ils vivent ensemble, en fait. Eux, tout ce qu'ils entendent, c'est... bon, il y a un truc qui cloche, les adultes, ils se font tous la gueule, ils s'embrouillent. Et il semblerait qu'à l'origine de tout ça, il y a Meryl, c'est elle qui fout la merde, quoi. Et comme ils s'ennuient, ils n'ont rien d'autre à faire, et que cette haine s'accumule en eux aussi, parce que les enfants absorbent tout ça, bah, à un moment, il faut bien que ça se déverse quelque part. Et les adultes sont hypocrites, ils veulent lyncher quelqu'un, mais ils ne vont pas non plus le faire. Alors, il y a plein de faits divers entre-temps que j'ai appris, voilà, où ça va beaucoup plus loin que ça, mais quelque part, ça reste dans le parler. Les enfants, ils n'ont pas encore appris à parler, à s'exprimer. C'est le propre d'un enfant, c'est que malheureusement, ils n'en sont pas encore là, généralement. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est du coup, physiquement s'en prendre à quelqu'un. Voilà.
On parle de ce personnage féminin. On disait que c'est plusieurs femmes qui vous ont inspiré le personnage qu'elle est. Comment est-ce que vous la décririez ? Comment est-ce que vous l'avez trouvée graphiquement ? Est-ce qu'elle est venue assez... spontanément, sous votre trait ? Est-ce qu'il a fallu faire des recherches ? Comment est-ce que vous l'avez pensée physiquement pour qu'elle soit, j'imagine, à la fois, justement, cette femme qui séduit quelque part les hommes, mais qui les séduit parce qu'elle a un naturel qui est charmant. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Elle a quelque chose de très naturel, de très spontané. Comment est-ce que vous l'avez pensée, à la fois à partir de ces femmes que vous avez rencontrées, vraiment très concrètement, graphiquement ? Est-ce qu'elle a beaucoup bougé par rapport à ce que vous imaginiez au départ et la façon dont on la découvre dans votre album ?
Les femmes auxquelles je pensais, j'avais pas de photo d'elles, donc j'avais vraiment une image qui était purement subjective, quoi, qui m'était restée et qui était plus dans l'attitude générale, la façon de marcher, la façon de se baisser, enfin plein d'attitudes assez, voilà, je me disais ça, c'est comme ça que je veux qu'elle bouge plus. Après, il y avait une sorte de corpulence générale quand même où elle était assez solide, plutôt musclée, plutôt, ouais, qu'elle avait les pieds bien sur terre, enfin quelque chose dans l'attitude, voilà. Après, c'est vrai que on peut avoir une idée d'une femme en tête, mais il y a quand même le visage qui va être important et tout ça. Et là, j'avais plus de souvenirs. Donc, et je voulais quand même qu'elle ait un visage, comment dire, très solide, quoi. Qu'elle ait l'air solide aussi. Je ne sais pas comment expliquer, mais que ça reflète un peu son côté, justement, qui ne se laisse pas abattre. Donc alors, moi, j'ai des techniques. Hein. Normalement, ce que je fais, c'est que quand il m'arrive de voir un documentaire ou un truc et tout, si je suis sur mon ordi, par exemple, je vais parfois mettre sur pause quand je vois une bonne tête qui passe. Et j'ai littéralement des dossiers casting. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais j'ai casting. Et alors, je mets des noms, des trucs. Parfois, j'invente des noms.
Femme, 40 ans.
Non, pas comme ça. Mais d'ailleurs, du coup, je n'avais pas Meryl dans mon casting, malheureusement. J'avais Suzy, je pense. Suzy, je l'ai retrouvée dans un de mes castings d'une émission flamande où on va manger chez les uns les autres, voilà, des trucs comme ça. Mais voilà, ce genre d'émission, c'est très pratique pour ça. Après, il y a en rue, dans le café, tout ça. Mais voilà, si tu cherches une tête vraiment... Et finalement, j'ai quand même trouvé une femme qui ressemblait fort à ce que je cherchais dans une émission, même chose, mais là où on va dormir les uns chez les autres, en Flandre, à nouveau. Et elle avait un truc... elle était hyper souriante, cette femme. Elle avait l'air tout le temps morte de rire. Et autant Meryl, elle n'est pas tout le temps morte de rire, clairement pas. Je ne sais pas, elle avait un peps, un truc. Et donc, je me suis un peu basée sur elle, ouais. Mais au début, ça a été compliqué. Parce que, quand on trouve une tête, on se dit, on va faire réaliste, machin, truc et tout. Et ouais, il faut quand même trouver... Mon éditeur, il me dit toujours, il faut que tu trouves un design. Et à un moment, il faut que sa tête, elle s'imprime, quoi. Il faut pas que...
Oui, et puis, il faut la tenir tout au long de l'album, surtout en plus quand c'est un... premier album, c'est-à-dire, oui. J'imagine que c'est pas forcément évident ça de réussir à tenir vraiment ses personnages, mais d'autant plus son personnage principal.
Oui, et c'est important, ça fait peur. Alors, ce qui est pratique, c'est que j'ai d'abord fait tout le découpage qui était assez poussé, donc finalement le dessin était déjà fort en place, et j'ai eu le temps déjà sur 160 pages de la dessiner une première fois de façon très spontanée. Donc quand j'ai eu à la dessiner proprement, elle existait quand même déjà, quoi. C'était pas... Donc j'avais eu le temps de m'habituer. Voilà, elle avait déjà un peu eu tout ça. Mais on voit dans les... pas les 10 premières pages, parce que c'est pas les premières que j'ai dessinées, mais les... à partir de la 11, je crois, un truc comme ça. Là, on voit que c'est le début et qu'en effet, ça bouge, le trait est pas encore là et tout.
Ce qui est intéressant, vous disiez, c'est un personnage, elle est forte, elle est ancrée quelque part dans le sol, et ça participe pleinement aussi de notre façon de percevoir son histoire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement touchant, puisque à la fois on la voit solide, elle réagit pas ou peu par rapport à ce qui lui arrive, et ce qui fait que tout ce qu'elle peut ressentir, on le perçoit quand elle est avec son petit ami, mais on peut surtout l'imaginer, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que derrière une façade, derrière un masque, les gens ressentent vraiment. Et ça, c'est quelque chose, et c'est une des très grandes réussites de l'album, c'est que ce sont des choses qui peuvent vraiment passer par le dessin uniquement et par le ressenti, les émotions qu'on provoque chez les lectrices et les lecteurs. Vous vouliez ce personnage qui soit a priori justement... fort et qu'on ressente finalement la douleur qui est la sienne.
Justement, j'ai eu un peu peur qu'elle soit trop solide et que ce soit pas crédible. Je voulais pas qu'elle ait vraiment un masque. Ce qui était important pour moi surtout, c'est qu'elle n'allait pas blesser d'autres gens. Donc qu'elle ne montrait pas d'émotion, en tout cas négative, pour ne pas blesser d'autres gens, mais qu'à des moments où elle était en sécurité, par exemple avec ses canards, ou avec son petit ami, ou avec Finn, à partir d'un moment où ils s'entendent, là, elle pouvait peut-être un peu plus s'exprimer. Mais dans les autres moments, ou bien ça se passe bien au début et tout le monde va bien et il n'y a pas de problème, elle n'a pas besoin de jouer le jeu. Et à d'autres moments, imaginons qu'elle laisse tomber ce masque, elle ne pourrait faire que blesser des gens, provoquer des disputes, et ce n'est pas ce qu'elle souhaite, en fait. Donc c'est un masque qui est là pour protéger presque parfois plus les autres qu'elle-même, enfin j'espère. C'est comme ça que je le voyais, quoi. Oui.
On parlait de ce village de la campagne flamande, un village qui est, je crois, inspiré du village, oui, où vous avez vécu adolescente. Je vous ai entendu dire que vous ne pouviez pas envisager de raconter une histoire dans un lieu que vous ne connaissiez pas. C'est important de savoir où se situent les choses, de savoir que ce qu'on projette, on peut l'imaginer dans un décor réel.
Oui, après, il y a des auteurs qui arrivent super bien et des autrices qui arrivent super bien à raconter des histoires qui sont loin de chez eux et elles. Moi, ce n'est pas le cas, mais c'est parce que aussi, ce qui m'intéresse, ce sont des histoires qui se passent près de chez moi, généralement. Mais voilà, moi, je suis au tout début, là, j'ai fait une BD, donc j'en sais rien, ça se trouve. Enfin, j'espère que je ferai plein d'autres BD, que voilà, ça se trouve, ça va bouger.
Mais du coup, je me suis demandé si vous aviez été dans des foires avec des concours de canards.
Eh bien, justement, dans la région... Donc, où se passe la BD, il y a plein de concours comme ça. J'étais assez intéressée, mais à chaque fois, je n'ai pas réussi à aller à une foire au bon moment parce que je n'habitais plus là quand j'ai vraiment voulu faire la BD. Donc, j'avais vu plein de documentaires. Et puis, quand enfin, j'ai décidé d'aller à une foire, il y a eu le Covid. Donc, je n'ai pas pu aller à la foire où j'avais prévu d'aller, ni à la suivante, ni à toutes les autres, parce qu'il y a eu le Covid pendant 2 ans, en fait, et que les foires ont été annulées pendant 2 ans. Mais j'ai envoyé un mail à l'association des éleveurs aviculteurs du coin, et j'ai pu rencontrer donc, des aviculteurs, pour le coup, dont un qui m'a vraiment bien aidé pour la documentation et tout ça, et qui m'a expliqué quel était son rapport à ces animaux, comment on prépare un animal comme ça pour faire des expositions et tout ça. Et c'est pas du tout le rapport qu'a Merle à ses animaux, c'est n'importe quoi. Hein. Merle, enfin, normalement personne ne fait ça comme elle, ça n'a aucun sens, mais c'est parce que ça m'arrangeait pour mon récit.
Mais justement, on vous a expliqué comment est-ce qu'on faisait pour qu'il ait des reflets, pour qu'il soit quels sont les canards qui ont le plus de chances de gagner ces
tout
concours.
Ah oui, mais c'est extrêmement précis en fait. Il mesure, enfin, pour chaque race de canards puis de poules et tout, parce que enfin finalement les lapins, il y a des critères extrêmement précis à respecter. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, quand on voit que Merle, en fait, elle s'en fout. Hein, elle vient avec ses canards, elle vient surtout là pour rencontrer des gens et tout ça. Ces canards, du coup, sont censés être jugés sur le physique de façon extrêmement... elle s'en fiche. Et justement, dans la vraie vie, elle aussi, elle s'en fiche des critères de beauté qu'on est censé lui assigner. Donc, ce truc des canards, c'était pas fait exprès, mais je me suis rendu compte par après que symboliquement, finalement, ça rejoignait tout le truc de... Merle qui s'en fiche vraiment de tous ces trucs-là. Quoi. Elle veut juste passer des bons moments avec ses potes. Elle n'est pas très compliquée. Elle a déjà vécu ces trucs dans sa vie. Là, maintenant, ça va. Elle a juste envie de passer des bons moments avec ses canards, avec ses amis. Voilà.
Comment est-ce que, et ça rejoint peut-être le travail avec l'éditeur, vous nous le direz, mais comment est-ce que vous avez travaillé le rythme de cet album ? Parce que y a des moments justement où elle est avec ses animaux, il fallait des moments un peu en suspens parce qu'on est dans la campagne flamande, parce que tout ne va pas à toute vitesse. En même temps, il se passe quand même énormément de choses et j'imagine que ça a été un vrai enjeu de travailler ce rythme-là, c'est-à-dire de vraiment poser l'ambiance, qu'on ait vraiment l'impression d'être à ses côtés dans ce village, tout en justement cassant ce rythme parfois pour pas que ce soit justement uniquement quelque chose de contemplatif. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver ce rythme qui fait qu'on a l'impression d'être dans le rythme de la vie de ce village vraiment ?
Je ne sais pas. J'ai pas...
intellectualiser ça au moment du découpage.
Non, j'ai pas intellectualisé ça. La seule chose que j'aimais bien, c'était le fait qu'elle soit tout le temps en mouvement presque. Et même chez elle, finalement, elle est quand même souvent plutôt en mouvement. Mais j'ai pas intellectualisé ça. Enfin, le rythme. Oui, j'ai réfléchi au rythme, mais je sais pas si je l'ai réfléchi en cet aspect-là.
Et justement, je parlais de la relation avec l'éditeur, on parlait du puzzle, des différentes pièces qui arrivent, cette idée du fait divers avec la vengeance sur des poules, ces femmes rencontrées. À quel moment est-ce que vous avez commencé à envoyer des choses à un ou plusieurs éditeurs et comment ensuite s'est fait le travail avec votre éditeur qui est Thomas Gabizon? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble et qu'est-ce que finalement cet échange-là vous a permis dans la construction de votre récit ?
Alors, donc moi j'ai fait Saint-Luc et puis après j'ai commencé un projet que j'avais envie de raconter depuis mes 19 ans, quoi, plus ou moins. Et voilà, mes 19 à mes 22, j'ai essayé de placer ce projet, ça n'intéressait personne. Puis je faisais aussi.
C'était quoi comme projet ?
Bah, je ne dis
pas. Ça intéresserait peut-être, nous.
Non, je vais laisser de côté parce que peut-être qu'un jour je le reprendrai, je ne sais pas encore. En tout cas, ça faisait un peu trop longtemps que je bossais là-dessus. Enfin, ça faisait 3 ans, ce n'est pas très long, mais quand on est jeune, on change d'idée, on bouge pas mal. Puis parfois, on s'accroche à des trucs et c'est important de ne pas trop s'accrocher à des idées. Parfois, il faut laisser aller les choses parce que c'est mieux. Mais il restait quand même une personne que je n'avais pas contactée parce que ça me faisait trop peur, je crois. Parce que voilà, Actes Sud, pour moi, c'était. J'avais regardé, donc en gros, à un moment, un de mes profs m'avait dit pour choisir un bon éditeur qui saura te comprendre, regarde toutes les BD, tes BD préférées, regarde qui les a publiées. C'est vrai que c'est assez bête, mais voilà. Donc j'ai été regarder, et à chaque fois, il y avait écrit Thomas Gabizon. Je me suis dit, ok, ce type, clairement, il a un peu les mêmes goûts. Enfin, après, moi, je fais pas ça, mais en tout cas, j'adore ce qu'il publie. Donc.
C'est l'éditeur de Brecht Evans, de Camille Jourdi, de Miroslav.
Oui, Mathias Lehmann, oui. Donc oui, j'étais vraiment. Je me suis dit, il faudrait que je le contacte et tout, mais j'avais vraiment peur parce que je me disais, voilà, tous les autres refus, en fait, je savais que c'était normal de se faire refuser, donc c'était pas grave. Je me disais, c'est vraiment pas grave, je me fais refuser, mais enfin, je sais pas si vous avez lu des trucs, des biographies, autobiographies d'auteurs et tout, mais qui disent tous, oh, ça a duré 5 ans, 6 ans, 10 ans. Enfin, je me suis dit, bon, bah, ça va, ça fait 3 ans, tout va bien se passer, c'est normal. Voilà. Et j'ai contacté Gabisson, là, en ayant peur, parce que je me disais, si lui refuse, en vrai, ça va me saouler et tout. Et ça a été le seul à être intéressé, heureusement. Voilà, finalement, voilà, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais par contre, il n'était pas du tout intéressé par mon projet de l'époque. Mais il trouvait que mon dessin n'était pas si mal, alors que tout le monde m'avait dit que mon dessin était vraiment moche. Vraiment, les éditeurs me disaient... Mais
ils vous ont répondu ça.
N'a pas moche, éditeurs. Mais ils disaient, votre dessin n'est pas à la hauteur. Quoi. Vous ne dessinez pas assez bien, ou il y a des gros problèmes de dessin. Mais ils ont raison. Enfin, moi, je comprends tout à fait pourquoi ils disent ça. Et j'étais d'accord avec eux. Je me disais, bon, ça va prendre le temps que ça prendra. Mais... Et Gabisson, non, ils s'en foutaient. Ils disaient, le dessin est très bien. Par contre, le scénario, ça va pas. Alors que les autres m'avaient dit non, le scénario, ça va, mais bon. Bref, je sais pas pourquoi je raconte tout ça.
Si, non, mais c'est intéressant parce que c'est toujours intéressant, je trouve, de voir comment est-ce que ça a commencé. Et peut-être oui. Qu'il y a des gens qui sont ici ou bien qui nous écouteront plus tard, qui auront essuyé des refus oui. Et qui se diront, justement, ah, oui, c'est normal, effectivement. Oui, oui. Et puis, effectivement, après, la notion de qu'est-ce qu'un bon dessin aussi varie. Oui. Il suffit de regarder tout ce qui est publié. On se rend bien compte qu'effectivement, il y a des traits, des univers qui plaisent à certains
super
et pas
différent.
À d'autres. Donc,
oui, en vrai, le monde est super large. Je pense qu'il y a la place pour le dessin d'à peu près tout le monde. Et je pense que tout le monde est capable, finalement, de dessiner. C'est juste qu'il faut trouver un moment, la bonne personne, arriver au bon moment aussi, puisque là, finalement, je me retrouve dans une nouvelle collection, donc ça tombait bien.
Oui, puisqu'on peut peut-être préciser, donc Thomas Gabisson est le fondateur de cette collection chez Dupuis, des ondes Marcinelle et des ondines, qui est une collection pour la jeunesse.
Oui, parce que du coup, donc Thomas, à un moment, finalement, je dis, c'est pas grave, j'ai plein d'autres histoires, si le scénario te plaît pas. Je me suis dépêchée d'écrire une autre histoire rapidement, en me disant, je vais faire une enquête à la campagne, et avec un truc de genre, ce sera plus facile pour commencer la BD, peut-être que l'autre était trop ambitieux. Finalement, c'est pas devenu vraiment une enquête, on est d'accord, mais voilà, donc au moins, je pouvais... faire que Thomas Gabisson n'allait pas partir comme tous les autres éditeurs. Donc voilà, là je me suis dit, lâche pas. Et finalement, voilà, on a commencé à discuter de cette enquête. Et puis il m'a dit à un moment, bon, en fait, je vais commencer une nouvelle collection chez Dupuis. Et il se trouve que vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé un dossier qui se passe en périphérie des villes, c'est plutôt rural, qui sont ancrés avec des personnages assez forts. Je pense que ça marcherait bien, cette collection, et je pense que ton album pourrait fonctionner là-dedans. Donc je me suis retrouvée chez Dupuis, finalement. En plus, Dupuis, il m'avait refusé, d'ailleurs, avant. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc c'est marrant.
Le cheval de Troie.
Voilà. Oui, c'est ça, Thomas, c'est le cheval de Troie. Et puis finalement, c'est rigolo, et puis voilà. C'est comme ça, quoi.
Et comment est-ce que vous avez travaillé ensuite ensemble, justement, pour enlever cette partie enquête? Et comment est-ce que, à quelle fréquence est-ce que vous échangiez? Est-ce que vous partiez avec quelques indications et donc vous avanciez, par exemple, sur le scénario, puis sur le découpage? Est-ce qu'il y avait un contact plus régulier? Comment est-ce que, vraiment, vous avez travaillé ensemble? Et à quel niveau vous avez l'impression que son accompagnement a été le plus précieux pour une jeune autrice, encore une fois, parce que c'est extrêmement important. On ne fait qu'une fois un premier album.
Oui, c'est vrai, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, heureusement, je n'ai pas réfléchi à ça avant. Parce que c'est comme le fait que ce soit le premier d'une nouvelle collection. Je ne le savais pas non plus au début, donc heureusement. Thomas, il est vachement perché. Hein. Donc moi, quand j'ai commencé à parler avec lui, je ne comprenais rien à ce qu'il me racontait. Vraiment, j'ai mis du temps à comprendre. Il est beaucoup plus intellectuel, il intellectualise les choses. Moi, pas tellement, j'ai un côté plus brut. Donc au début, je comprenais vraiment rien. Donc j'étais un peu désespérée, en même temps très contente qu'il veuille bien parler avec moi et continuer à travailler avec moi. Mais petit à petit, voilà, il y a un truc où... Donc je comprenais rien, je me suis dit, c'est pas grave. Si lui, il a l'air de penser que ça ira, c'est que ça ira. Fais-lui confiance. Et en fait, il me disait des trucs que je comprenais pas du tout. Et puis... 3 semaines après, d'un coup, c'est pas ce qu'il avait dit qui faisait sens, mais ça réveillait des choses. Il y a des choses qui bougeaient, ça modifiait des choses de place, il y a des personnages qui s'ouvraient, qui se refermaient, il y a des dialogues qui naissaient. Enfin, finalement, c'était très, très, très stimulant intellectuellement et puis émotionnellement. Enfin, et c'est marrant parce que la plupart du temps, il dit des trucs et c'est pas ce qu'il a dit dont je vais tenir compte, mais ça me réveille des choses mentalement. Et ensuite, il insiste énormément sur le travail sur le personnage même, sur la façon dont ce personnage va interagir avec son entourage. Et là, bah, pour Mir, ça a été très important parce que j'étais encore, enfin, j'avais du coup 23 ans tout, bah, quand j'ai écrit Mir. Et bah, c'est difficile de ne pas commencer à vouloir diriger très fort ces personnages, à vouloir contrôler, à faire, voilà, à se dire maintenant il fait ceci, maintenant il fait cela, parce que je veux cette émotion-là, il faut que je crée cette émotion à ce moment. Thomas, il est plutôt de l'école de dire voilà, laisse la place au personnage, laisse-le vivre, invente des scènes qui ne seront pas dans l'album, pense-le en dehors de l'album. Donc voilà, Meryl, pour moi, a toute une vie en dehors de ce qu'elle vit dans l'album. Et ce qu'on voit, c'est qu'une sélection de sa vie que j'ai décidé de vouloir montrer aux gens, parce que c'est ce qui me passait c'est ce qui me paraissait le plus pertinent.
Et vous le disiez, quand Thomas vous a dit le scénario par rapport au premier projet ne m'intéresse pas, en revanche, il y a quelque chose dans ton dessin, vous disiez j'ai écrit rapidement quelque chose pour lui envoyer directement une autre piste. Combien de temps est-ce que ça vous a pris ensuite pour justement écrire le scénario, faire le découpage et aujourd'hui avoir publié ce premier livre?
Ouais, parce que du coup, le truc de... Je vais trouver un autre truc. Bah, y avait quand même ce fait divers hein, qui m'était resté trop en tête. Mais en gros, j'ai fait une sorte de réunion d'urgence parce que j'étais avec mon frère et mon compagnon. Et j'ai dit, bon, OK, on fait un brainstorming. J'ai cette idée. Qu'est-ce que je peux présenter demain, quoi, enfin, vite. Et du coup, on est tombé sur une enquête, un truc de genre, parce que c'est pas du tout ce que j'ai fait finalement, mais c'était juste voilà, pour commencer. Ensuite, ça m'a pris... attends, si je réfléchis, c'était quand? C'était mars, machin. Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, mais voilà, je faisais d'autres trucs aussi à l'époque, donc je pouvais pas y travailler à temps plein. Mais moi, je trouve que ça prend du temps. Et surtout, la réflexion, finalement, le découpage, ça prend... c'est pas d'un point A à un point B à un point Z.
Non, mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent chez les gens, de savoir... Il y a toujours quelque chose d'intriguant quand on ne fait pas de la bande dessinée, de savoir combien de temps ça prend. On ne se rend pas toujours compte, justement, que oui, ça prend beaucoup de temps de faire une bande dessinée, de penser une histoire, de réaliser les planches. C'est vraiment quelque chose qui occupe une très grande partie de la vie. Et c'est tout aussi vrai quand on se lance dans un projet qui, autre qu'un projet dessiné qui nous tient à cœur. Mais voilà, ce n'est pas anodin de se lancer dans une histoire et dans un projet de bande dessinée parce qu'on va vivre avec les personnages. Vous disiez, je voyais ce personnage en dehors des scènes que j'ai dessinées dans le livre. Bah voilà, c'est des personnages avec lesquels vous vivez pendant 1, 2, 3 ans parfois pour votre premier projet d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, c'est toujours intéressant de raconter à celles et ceux qui ne connaissent pas bien la bande dessinée que, bah oui, que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps.
Bah, du coup, oui, faire Merle de A à Z, ça m'a pris 2 ans. Ce qui n'est pas si long que ça. Voilà. Souvent, ça dure plus longtemps. Maintenant, et donc pour moi, le quota scénario, découpage et dessin, c'est 50-50. Quoi. Je pense que je passe autant de temps. Après, ça dépend si. Je pense que le scénario pourrait prendre plus de temps par rapport au dessin. Ça dépend du nombre de planches à dessiner. Quoi. Parce que le dessin, finalement, c'est quand même pour moi quelque chose de plutôt artisanal où tu peux avoir une routine. Voilà, tu fais autant de pages par semaine ou pas. Alors que le scénario, il y a quand même un côté également routinier. Hein, tu te mets à ta table et tu bosses, mais tu ne peux pas être sûr que tu vas produire autant de pages par jour comme avec le dessin. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une phase qui est super chouette. Enfin, moi, j'adore. Pour le moment, d'ailleurs, je suis encore en phase scénario-découpage. Je n'ai pas envie de la quitter pour commencer le dessin parce que je sais que le dessin, il n'y aura plus de surprises. Ce sera fini. Et c'est décidé pour les 2 prochaines années ce que je vais faire. Tout sera défini. Et là, j'ai encore envie de rêver, de me dire que tout est possible, qu'en fait, ce sera encore beaucoup mieux. Que c'est génial. C'est un moment où il faut imaginer que tu peux créer des personnages de A à Z. Et c'est toi qui décides ce que tu fais avec quoi. Enfin, c'est génial. C'est génial. Après, les dessiner, c'est un côté un peu méditatif, je trouve. Qui est très agréable aussi, mais c'est plus calme. Quoi. Là, sinon, au scénario, le cerveau, il devient fou. Parfois, il turbine.
Vous disiez, quand on est à son bureau, je lisais, je crois que c'était dans un entretien que vous avez accordé à Télérama, que vous créez, remarque, c'est pas sûr, c'est peut-être dans un autre, mais dans un van, dans quelles conditions est-ce que vous vous mettez pour créer? J'imagine que c'est pas forcément les mêmes conditions qu'on est justement sur la partie scénario que sur la partie vraiment dessin, où là on a besoin d'être installé à un bureau, on peut pas forcément écrire sur les genoux ou autrement. Dans quelles conditions est-ce que vous créez?
Bah, du coup, le van, c'est pas mon bureau, hein, c'est mon habitat, donc, enfin, c'est un camion aménagé. Et je travaille là-dedans, bah, j'ai un bureau, quoi. c'est la table à manger qui se transforme en lit et qui est mon bureau en même temps. Et donc, tout merle a été fait là-dedans. Hein, bah, de la même façon que quelqu'un de normal dans sa maison, quoi. Il fait juste un peu plus froid parfois, quoi. Et un peu plus humide. Ça fait mal aux muscles.
Non, je me demandais, quand j'avais lu cette phrase, je me demandais que si c'était parce qu'il y avait une dimension justement de voyage, de changer de décor. Voilà, je me demandais si ça induisait quelque chose sur la création, parce que cette phrase était évacuée très rapidement dans l'entretien. Enfin, c'était juste une phrase, mais qui, c'est vrai, m'a interpellée, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a ce besoin, cette envie, ou en tout cas que ça apporte quelque chose à la création de, bah oui, de pouvoir être mobile, en fait, et de pas être... voilà, si je m'installe à mon bureau, j'ai toujours la même vue tous les jours, en plus sur un siège d'une banque, donc c'est pas hyper inspirant. Voilà.
Alors, y a plein de... C'est vrai que, voilà, j'y réfléchis pas tellement, mais là, tout ce que vous dites, ça, c'est vrai que ça me parle. Le coup de voir des vues différentes à chaque fois, bah, en fait... alors moi, je fais pas des grands voyages, hein, c'est des tout petits sauts de puce de 5 km par jour, plus ou moins, donc je suis en France et en Belgique. J'ai jamais été ailleurs pour le moment. On verra, peut-être. Et c'est généralement des parkings pas hyper sexy. Mais sur les parkings, il se passe plein de trucs, plein de trucs. Donc, c'est, en fait, c'est hyper excitant.
Plein de personnages.
Il y a plein de personnages. Donc, oui, ça, c'est hyper stimulant. Maintenant, pour Meryl, ça n'avait pas de sens parce que j'avais pensé le scénario avant. Mais pour mon prochain projet, oui, ça m'a énormément influencée. La vue qui change chaque jour, bah, c'est génial. En vrai, parce que c'est vrai que quand j'étais encore à Bruxelles et que bah, je voyais la rue d'en face, quoi, enfin, les bâtiments en face, et que... en plus, il pleut beaucoup en Belgique. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est pas hyper excitant. Là, au moins, le parking change, quoi. Parfois, c'est un parking avec des poubelles jaunes, parfois, c'est des poubelles bleues. Il y a des gens qui passent, il y a un peu plus de vie. Et alors, autre chose, quand même, c'est que bah, moi, ça me rend heureuse aussi parce que je suis libre, du coup. J'ai pas de compte à rendre, pas à un propriétaire, pas à un patron, puisque du coup, je fais que de la BD. Ben moi, ça me rend heureuse et donc ça me donne envie de faire plein de choses et j'ai beaucoup plus d'énergie aussi en étant heureuse et libre qu'en étant enfermée dans mon appartement où il y a plein de gens qui me demandent de rendre des comptes. J'ai cette liberté, je suis hyper heureuse de l'avoir, quoi. Donc, voilà.
Vous parliez de ce prochain projet. Vous aviez immédiatement plein d'idées en tête quand vous avez terminé ce premier album. Parce que je me demande si on attend, avant de se lancer dans un nouveau projet, si on attend la sortie d'une bande dessinée, on ne la vit peut-être pas de la même façon que si on est déjà dans autre chose ou quelque part, on est très heureux si ça se passe très bien comme ça se passe pour vous. La bande dessinée est extrêmement bien accueillie par la critique, par les lectrices et les lecteurs. Mais j'imagine que d'être déjà dans un autre projet, ça permet aussi, selon les personnalités de chacun, hein, mais de pas être trop concentré justement sur cette réception et que ça... Que ça n'influence pas la façon de se projeter dans l'avenir. Vous aviez tout de suite plein de projets que vous aviez envie de développer. Est-ce que c'était évident que c'était le scénario sur lequel vous travaillez actuellement qui devait être votre prochain projet ? Comment est-ce que vous avez vécu quelque part le rendu des dernières planches ?
Après, il y a quand même plusieurs histoires qui tournent en rond. C'est comme ce fait divers. C'était pas un truc que j'ai inventé du jour au lendemain. Ça faisait... 4 ans, je pense que ça traînait quand même quelque part dans ma tête, voilà. Et donc voilà, j'ai peut-être toujours 3 ou 4 histoires en même temps qui restent là. Et après, en fonction du moment où je m'arrête et que je suis prête à démarrer autre chose, l'envie va être de faire l'un ou l'autre projet. J'aurais peut-être rencontré quelqu'un aussi qui me donnerait envie de, je sais pas, prendre sa tête. Désolée pour la personne, mais voilà. En vrai, il y a des gens qui sont inspirants et qui donnent envie de les raconter. Pour le coup, Meryl, bah, du coup, je pense que ça fait quelques mois avant le rendu de mes dernières pages de Meryl, j'avais déjà une assez bonne idée de ce que je comptais faire après. Tout le contexte était déjà mis en place, etc. Et en fait, à la fin, le dernier mois où j'ai travaillé encore sur les pages de cet album-là, j'ai commencé vraiment à avoir envie de passer à mes autres personnages. Et Meryl commençait vraiment à me dire « bon, maintenant, il est temps de se quitter ». Il y a quelqu'un d'autre qui m'attend juste après. J'ai envie de passer du temps avec cette personne-là. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose, quoi. Et donc, finalement, j'ai tout de suite enchaîné. C'est un tout autre univers, une autre façon de raconter tout ça. Donc, j'ai eu... Voilà, ça ne se fait pas non plus de façon complètement naturelle parce qu'il y a quand même besoin d'une sorte de scission entre bah, un univers, un personnage et quelque chose d'autre. Donc j'ai quand même pris un peu de temps et tout. Et comme voilà, comme j'étais, je suis un camion, bah, j'ai essayé d'un peu plus profiter de la nature, parce qu'avant je travaillais tout le temps. Là, j'ai pris presque un mois où je faisais du scénario, mais que dans ma tête, quoi. Où je me promenais, je faisais des longues balades et je réfléchissais. Et comme c'était le printemps, bah, ça, je sais pas, la nature, elle me donnait envie de raconter ça aussi. Et puis bah du coup, enfin, voilà, encore une fois, le moment où on va s'y mettre peut influencer. Du coup, là c'était le printemps, bah du coup mon album va se passer à la fin du printemps. C'est parce que c'était ce moment-là où j'ai commencé. Si c'était en hiver, peut-être ça se serait passé en hiver. Mais j'ai commencé à l'écrire en hiver. Du coup, il y a une grande partie qui se passe en hiver, à l'automne.
Vous disiez, quand j'ai dû proposer quelque chose de nouveau à mon éditeur, on a brainstormé avec mon frère, avec mon compagnon pour trouver des idées. Est-ce que quand vous commencez à avoir des idées comme celles dont vous venez de nous parler, est-ce que vous en parlez un petit peu autour? Est-ce que vous avez besoin de ces personnages, justement, les protéger un peu au début? Parce que justement, j'imagine qu'à la fois, ça peut être extrêmement excitant de partager ça avec des proches. Et en même temps, je me dis, est-ce que quand ils sont au tout début, quand les contours ne sont pas encore complètement définis, est-ce qu'on ne craint pas qu'une question de quelqu'un ou une remarque d'un seul coup vienne tout bousculer? À partir de quel moment est-ce que vous commencez à en parler et à raconter un petit peu vos personnages aux gens qui vous entourent, éditeur ou pas, hein?
Oui, c'est ça, éditeur ou pas, parce qu'avec Thomas Gabisson, qui est mon éditeur, j'en ai parlé assez rapidement, parce que lui aussi demande, bon alors, c'est quoi la nouvelle, machin. Sinon, comme mon compagnon fait de la bande dessinée également, c'est la personne à qui j'en parle, et puis comme il est dans le van aussi, c'est assez simple. Et du coup, je pense que c'est surtout ces deux personnes-là quoi, à qui j'en parle. Je vais faire lire mes storyboards une fois que j'ai fait le premier jet de tout l'album à un peu plus de gens, des amis et tout ça. Mais dans le premier processus, avant de faire le découpage, j'en parle pas à plus de gens que ça. Mais j'en parle à des personnes en qui j'ai vraiment confiance, qui savent... voilà, Thomas Gabisson, il sait exactement où il peut m'emmener et ce que moi j'ai envie de faire. Et donc je sais que je peux lui faire confiance. Et mon compagnon, je trouve qu'il a très bon goût. Donc voilà, je vais pas... je sais qu'il comprend aussi ce que j'ai envie de faire. Et je trouve que son regard est très différent, donc ça m'aide aussi à mettre en perspective... mais parler de ces personnages à tout le monde dès le début. Après, les personnages au début, ils n'existent pas encore tellement, donc ils sont encore très
évanescents, ouais, quelque part un peu flou, un peu.
Oui, donc je peux pas encore être attachée à des choses particulièrement. Donc si quelqu'un me dit quelque chose, je vois pas ça comme un truc négatif. Au contraire, ça va justement nourrir, je pense. Mais bon, voilà. Ouais.
Et vous le disiez, la saison, par exemple, a eu une influence sur la façon dont vous allez raconter l'histoire. Est-ce que la technique aussi peut évoluer? Comment est-ce que vous avez choisi la façon dont vous avez réalisé cette première bande dessinée? Et est-ce que vous avez envie, dans le futur, que ce soit la prochaine ou un jour, d'expérimenter d'autres techniques? C'est vrai qu'il y a des dessinateurs, dessinatrices qui expérimentent beaucoup, qui changent d'album en album de technique. Il y en a d'autres qui creusent un peu un sillon parce qu'ils sont vraiment sûrs d'être à l'aise avec une technique précise. Comment est-ce que vous travaillez, avec quels outils, et comment est-ce que vous voyez la suite? J'imagine que c'est difficile de se projeter loin, mais en tout cas dans les années à venir.
Alors, il y a des autrices et des auteurs qui, en effet, pensent vraiment que chaque album, chaque histoire a besoin d'une technique particulière parce que ça va avec. Et je suis tout à fait d'accord. Maintenant, moi, je ne sais pas si... enfin, ça doit être un manque de confiance, mais je ne me sens pas spécialement capable de faire des trucs de fou et de partir dans plein de sens différents. Je ne suis pas une virtuose du dessin, ce n'est pas non plus ma passion. Le dessin en soi, c'est surtout raconter qui m'intéresse. Donc... pour l'instant, j'ai choisi le stylo bille parce que je suis gauchère et que la plume, ça ne va pas. Et que je peux pas... ou alors, il faut que je réapprenne à dessiner complètement en tirant ma main dans l'autre sens. Mais c'est vraiment... en fait, là, j'ai envie de raconter des trucs, donc j'ai pas envie de perdre du temps à apprendre à dessiner autrement. Donc, pour le moment, le stylo bille, ça me convient bien. Et en plus, c'est pas cher, etc. Et puis, la mise en couleur à la gouache, c'est parce que j'adore la gouache. Et que j'adore, enfin les couleurs, c'est vraiment un moment chouette où on peut encore se permettre de raconter un truc en plus. On se dit, bon, bah, ça y est, maintenant j'ai dessiné, tout est décidé. Mais en fait, non, la couleur peut encore apporter un élément. Et du coup, là, c'est vraiment mon plaisir d'aller chercher des tableaux dans mes petits dossiers ou dans mes... j'ai pas beaucoup de bouquins dans le camion, donc pour le coup, c'est sur mon ordi où j'ai mes petits dossiers avec tous mes trucs. Et puis je cherche des tableaux qui m'inspirent. Et du coup, est-ce que ça irait avec cette séquence-là ou pas ? Et je vole littéralement des palettes de couleurs de tableaux. Hein.
Mireille, voilà. Par exemple, pas forcément citer tous les artistes qui vous ont inspiré les couleurs de Mireille, mais quelques exemples ou bien un de peintures, de peintres qui ont pu vous influencer ?
Notamment pour la... Alors, pour le ton général de l'album, c'était plutôt déprimant au début, c'est plutôt gris et tout ça. Là, c'est des auteurs, enfin des peintres, ce sont surtout des hommes. Hein. Donc des peintres de l'expressionnisme flamand. Moi, j'aime beaucoup Permeke. Alors, ouais, c'est plutôt au niveau du dessin, parce que les couleurs de Permeke, c'est du brun. Hein. c'est pas vraiment ça. Il y a Spiel, il y a Art en Belgique, c'est un peu cliché, mais en fait, il raconte bien le gris des paysages, et son gris est beau, et donc ça peut aider. Mais sinon, c'est plutôt Herman Brusselmans, notamment pour des paysages assez naïfs et simplistes, et puis il fait des bons intérieurs aussi. Et puis Gustav van de Woesten, qui fait des bons portraits avec un paysage derrière, enfin, c'est très inspiré des icônes et tout ça, mais transformé. Et alors, pour la fin, où j'ai une séquence où tout s'emballe un peu au niveau des couleurs, où c'est vraiment, le dessin est resté très simple, le scénario reste simple, il se passe pas grand-chose. C'est avec les couleurs que j'ai voulu montrer plus de choses. Là, j'ai vraiment, par planche, choisi un tableau pour faire une évolution colométrique au fur et à mesure de la séquence. Et ça a été notamment... Rick Wouters, qui a été vraiment la référence pour cette séquence de fin. Donc Rick Wouters, c'est un peintre flamand aussi, flamand bruxellois, des années 1920, début du 20e. Et il a des couleurs très légères, en fait. C'est très, très beau, c'est très léger, c'est très lumineux, et c'est des très belles couleurs, il dessine très bien. Et il était fou de sa femme. Alors, il dessinait tout le temps sa femme, et c'est hyper touchant comme œuvre aussi. Et c'est lumineux tout le temps, et ils n'avaient pas facile toujours, et puis il est mort assez jeune. Enfin, c'est très touchant, c'est très beau. Ce qu'on se dit, des couleurs comme ça légères et tout, ça doit être un truc un peu fleuri et tout. Et en fait, non, c'est assez sérieux, lourd, je sais pas. Et j'aime bien ce décalage entre les couleurs, le léger et en fait les sujets abordés.
Je me pose une question parce que vous disiez je fais des captures d'écran, des films et j'ai mes petits dossiers casting. Là, vous évoquez des peintres et en disant j'ai des fichiers où il y a des peintures. Je me demandais quels autres fichiers il y a sur votre ordinateur et quels sont les dossiers sur votre bureau, ceux qui sont avouables.
C'est vrai que j'ai plein de petits dossiers, mais voilà, en vrai, j'ai tous ces petits dossiers parce que je pense que les autres, ils ont des livres et tout, mais je ne peux pas emmener tous mes livres avec moi, c'est horrible. Mais donc voilà, après j'ai aussi des images, des captures d'écran de cases de BD. Alors notamment des scènes à table, parce que c'est hyper difficile à dessiner, que parfois j'ai pas d'idée. Mais il n'y en a pas tant que ça dans mes... Mais c'était pour des projets précédents. Et sinon c'est plutôt des textes dans des livres que je lis. Je vais reprendre des descriptions, surtout des scènes de description, ça m'aide beaucoup. Ça peut être vraiment des trucs, des classiques comme Zola, hein. Je vais prendre des descriptions notamment dans, c'est pour mon nouveau projet, mais dans Au bonheur des dames, il peut décrire par exemple une couleur avec des tissus, et donc il va utiliser plein de trucs, et donc c'est hyper imagé et c'est super pratique pour une dessinatrice d'aller littéralement faire un exercice, dessiner ce qu'il a écrit et voir ce que ça donne. Est-ce que ça peut être intéressant de essayer de faire un truc un peu similaire mais dans la BD? Donc ouais, des textes. Les tableaux, les textes, oui, c'est ça en fait. Hein.
Et vous disiez au tout début, vous aviez surtout envie de raconter des histoires, et aujourd'hui encore, vous avez surtout envie de raconter des histoires. Est-ce que vous vous dites que vous aimeriez, à côté des histoires que vous racontez et que vous dessinez, écrire des histoires pour d'autres? Parce que j'imagine que quand, comme vous avez l'air de l'être, on est une grande lectrice, quand on aime beaucoup d'univers, il doit y avoir aussi quelque chose d'assez plaisant à l'idée de se dire d'un jour, écrire pour quelqu'un qui n'a pas du tout le même trait que le sien, et que peut-être parfois il y aura des histoires pour lesquelles, quand vous imaginez les personnages, vous les imaginez finalement avec un graphisme qui n'est pas le vôtre forcément.
Oui, et puis je me dis que la rencontre avec quelqu'un, ça peut être super, quoi. Ça peut vraiment apporter quelque chose. Alors pour le moment, je fais un scénario pour la collection Les Ondines, donc ça c'est Les Ondes, et puis il y a Les Ondines pour la collection Jeunesse. Et donc, dans la collection jeunesse, je vais faire un scénario, quoi. Là, je ne dessine pas, notamment parce que ce sera une histoire un petit peu fantastique et que mon dessin ne se prête pas trop au rêve et à la magie, je trouve. Voilà. Et c'est très chouette. Et oui, j'espère, oui, franchement, parce qu'en plus, c'est ça, c'est que j'ai envie de raconter plein de trucs. Je ne pense pas que je vais avoir le temps de dessiner à chaque fois et c'est frustrant. Et je pense que oui, oui.
On vient de l'entendre, il va y avoir un atelier dans 4 minutes.
Ah oui.
Donc peut-être que vous avez des questions pour Clara ou des réflexions à partager. Est-ce qu'il y a des questions pour Clara? Ouais.
C'est vrai qu'on peut se poser la question, puisque je disais que je n'aimais pas spécialement dessiner, que je ne dessinais pas bien, que machin. C'est vrai. mais en fait, donc, j'étais quand même à une école de BD, et le coup de roman ou BD, pour moi, c'était quand même clair que je voulais faire de la BD, la narration en bande dessinée. Après, je n'exclus pas, peut-être, j'aimerais bien peut-être un jour écrire, je ne sais pas. Je trouve ça plus difficile. La bande dessinée, c'était un truc très naturel. Donc, je savais que ce serait de toute manière de la bande dessinée. Maintenant, le dessin... J'étais pas contre l'idée de dessiner moi-même, c'est juste que j'étais persuadée de ne pas être capable. Et j'ai eu des super profs dans mon école qui m'ont expliqué par plein de moyens différents qu'on n'était pas obligé de savoir bien dessiner et que peut-être le bien dessiner n'avait pas la même signification pour tout le monde. Et que, voilà, comme disait Sonia, y a plein d'univers différents. Et en fait, quand j'ai vraiment eu un déblocage, notamment grâce à la découverte du travail de Bruno Heitz, justement, qui n'est pas prétentieux, qui ne cherche pas à faire quelque chose d'impressionnant, je me suis dit, bon, si en fait, si on peut dessiner juste comme ça, et que par contre la couleur, par exemple, ça faisait fort plaisir, s'il y a moyen de faire avec peu et de juste raconter, là, en fait, ça me plaît de dessiner. Là, c'est chouette. Si je ne dois pas essayer de faire des perspectives, des anatomies, en fait, là, ça va. Et puis, voilà, j'aimais toujours bien les tableaux expressionnistes avec les trucs, j'avais bien envie de faire un truc plus comme ça. Les profs, donc, m'ont encouragée. Et puis quoi, et en fait, faire du dessin, c'est reposant, je trouve. Donc c'est agréable aussi de faire une pause après le scénario et de juste se reposer.
Et j'imagine aussi, quand c'est des tout premiers projets, c'est peut-être aussi, je veux dire, plus facile. À part l'idée de travailler avec un camarade de classe ou pour réussir à trouver un dessinateur ou une dessinatrice qui décide de s'investir, c'est du temps, surtout quand il n'y a pas encore d'éditeur, donc de s'investir dans un projet qui peut-être va être proposé. J'imagine que ça peut, en tout cas au début, être plus simple de dessiner ses propres histoires.
Bah, tu n'as même pas tellement le choix. À la limite, si tu es un jeune auteur ou autrice et que tu dessines, tu peux envoyer un portfolio chez une éditrice ou un éditeur, tu peux être remarqué. Maintenant, si tu fais du scénario, je pense que c'est quand même chaud, quoi. Allez, il y a plein de scénaristes qui ont commencé et qui ont réussi comme ça, mais quand même, pour être remarqué, il vaut mieux arriver quand même déjà avec un partenaire ou une partenaire.
Mais je sais que même pour des autrices et auteurs plus confirmés, il y a des éditeurs qui n'acceptent pas un projet où il n'y a
juste
pas un dessinateur ou une dessinatrice déjà associée, parce que c'est du temps de trouver quelqu'un qui va pouvoir travailler avec, que c'est aussi incertain sur l'entente entre les deux personnes. Donc il y a des éditeurs qui prennent le temps vraiment de regarder les scénarios qu'on leur envoie, mais je sais qu'il y en a un certain nombre qui préfèrent demander aux scénaristes de venir leur proposer à nouveau leur projet quand ils auront déjà un dessinateur ou une dessinatrice avec qui travailler.
Oui, c'est vrai que du coup, si j'avais vraiment voulu faire que du scénario, que j'avais laissé tomber l'idée de dessiner, j'aurais certainement demandé à un de mes ou une de mes camarades de classe de travailler. J'aurais pas présenté juste un scénario, ça c'est sûr.
Thomas, il aurait pas répondu.
Ouais, sans doute pas. Et c'est vrai qu'en plus, lui, souvent, ses autrices ou auteurs travaillent seuls. Enfin, ils travaillent pas. Il y en a, hein, il y a des binômes, mais voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas de questions? Oui.
Alors, c'est vrai que laisser quelque chose apparaître, c'est génial, hein. Ce serait bien. Mais c'est vrai que, alors, quand je fais le scénario, je fais le découpage en même temps. Je scinde pas énormément la partie écriture du découpage. Parfois, j'écris mes dialogues à l'avance et après, je les mets en scène et tout ça, mais ça reste quand même fort lié. Donc, c'est vrai que même si le dessin propre n'est pas encore là, j'ai quand même une image assez forte de ce que je compte faire. Et donc, une fois que le découpage est là, ça veut dire que j'ai ma page avec mes quatre strips et que, ben, à la fin de la page, il y a une nouvelle page qui arrive juste après. Donc, c'est difficile de laisser quelque chose arriver. Mais ça peut arriver. Ça m'est arrivé dans Merle aussi de rajouter finalement une séquence. Et généralement, comme bah, du coup, c'est compliqué, bah, ça va prendre une page en plus, par contre, du coup. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus trop cette liberté dans la façon où moi, je travaille. Je pense qu'il y a des autrices et des auteurs qui se laissent beaucoup plus de liberté dans le dessin et qui n'ont pas du tout cette façon de travailler. C'est juste moi qui suis un peu une sorte de... Je sais pas.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pas de questions ? Ah, merci beaucoup, Clara. Merci à vous toutes et tous. C'est la place à l'atelier.